Bien, donc je vous propose de faire un petit bilan sur les 3 jours qui viennent de s'écouler, en sachant qu'il y aura des choses que j'ai déjà évoquées et des choses un peu nouvelles. Je terminerai, après avoir fait un petit bilan, par des pistes, en tout cas des questionnements qui seraient intéressants à développer. Alors je suis d'autant plus désolé de ne pas assister demain avec vous parce qu'il y a effectivement une intervention sur la professionnalité enseignante à partir d'une enquête qui a été menée par Françoise Lantom et Sabine Coste et d'autres chercheurs. Bon, mais évidemment, je trouve que j'ai appris un certain nombre de choses. C'est toujours intéressant de revenir un peu et de voir un peu ce que les collègues les uns et les autres mettent en avant par rapport au lycée professionnel. Et je ne vous apprends pas que c'est un terrain que j'apprécie particulièrement. Alors, je vais reprendre un petit peu les différents éléments par rapport à ces 3 journées. Je vais être très schématique. On peut dire qu'il y a trois éléments importants, trois dimensions, si vous voulez. Il y a la première dimension, c'est l'entrée par les élèves. Et l'entrée par les élèves a débuté par une réflexion sur le décrochage et sur la mobilisation. C'est-à-dire, il y a toujours cette tension entre décrochage et mobilisation. Et je dois dire que nous devons, c'est un positionnement qui est celui des sciences d'éducation, pour dire les choses rapidement, devons aussi déconstruire cette notion, cette notion de décrochage. J'ai dit avant-hier qu'on parle de décrochage sans que l'on sache qu'est-ce que ça recouvre, en sachant que dès qu'on se pose la question, c'est aussi une manière d'y répondre. Décrochage, ça peut recouvrir différentes situations, différentes expériences. Et par exemple, j'ai déjà vu dans des lycées professionnels où on dit des élèves décrocheurs pour qualifier des élèves ayant des difficultés de lecture et d'écriture. De la même manière, on peut parler d'élèves décrocheurs pour qualifier des élèves primo-arrivants qui maîtrisent pas forcément la langue française. Donc on peut avoir derrière cette notion de décrochage différentes intitulés, différentes significations, la nécessité de la déconstruire. Alors du coup, une question qui s'est posée, c'est si on parle de décrochage, qu'est-ce que c'est que réussir, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que la réussite en lycée professionnel? Et de ce point de vue, après les différents échanges, il y a une tension à résoudre d'une certaine manière. La réussite en lycée professionnel, elle est suspendue aussi à la question de l'insertion professionnelle des élèves, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils deviennent par la suite, quel est le degré de visibilité notamment de l'entrée dans la vie active des élèves. Et ça amène aussi une autre interrogation, comment valoriser la voie professionnelle? Et la valorisation de la voie professionnelle, elle est un peu en tension, comme je l'ai déjà dit, puisque l'institution scolaire dit d'un côté il faut encourager à l'orientation vers la voie professionnelle. Pour la première fois historiquement, en 2011, le nombre de bacheliers professionnels dépasse le nombre de bacheliers technologiques. Donc on peut penser que c'est déjà un début de valorisation et de reconnaissance. Autre élément aussi qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance à la poursuite d'études après le bac professionnel, et notamment, surtout dans les sections des BTS. Et c'est toujours intéressant de toujours relativiser un certain nombre d'observations. Par exemple, je sais que les journalistes présentent souvent en disant « les bacheliers professionnels ne réussissent pas bien dans l'enseignement supérieur ». En fait, ils prennent comme exemple l'université. Ils ne prennent pas comme exemple les BTS ou les DUT. Or, quand on compare, on s'aperçoit que c'est une réalité un peu différente. Donc ça veut dire aussi que la valorisation, c'est aussi quels sont les efforts que l'institution scolaire est prête à consentir pour permettre aux élèves la réussite dans la voie professionnelle, avec aussi, entre autres, la possibilité de poursuivre des études jusque, par exemple, une licence professionnelle, et pourquoi pas. Alors, une parenthèse que je ferai, c'est que cette question de l'entrée par élève, c'est aussi rendre visible ce qui se fait en lycée professionnel. Et à titre anecdotique, je prends toujours cet exemple parce qu'il était très parlant. Je me souviens le débat qu'il y a eu quand on a dit il faut plus d'enseignement d'histoire géo, plus d'épreuves d'histoire géo en terminale scientifique. Le bruit que ça avait fait dans les médias, c'est scandaleux. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne plus l'histoire géo en terminale? On la passe en première maintenant pour les élèves en première scientifique, alors que la réforme Bac Pro 3 ans n'a pas fait autant de bruit. Et je vous parle aussi en connaissance de cause, puisque les journalistes, par exemple, sur ces questions, sont un peu silencieux, si vous voulez, sur la voie professionnelle, alors qu'elle scolarise le tiers des élèves de l'enseignement secondaire. Donc, comment réussir? Qu'est-ce que c'est que la réussite en lycée professionnel? Nous avons en France, alors ça je positionne un petit peu de façon plus générale, nous avons quand même toujours une certaine, pas un raisonnement très négatif, mais en tout cas une image qui n'est pas très positive de la voie professionnelle, parce que nous opposons souvent le manuel et l'intellectuel. Et c'est une aberration. Pourquoi ? Parce que dans le discours même de l'école, j'entends souvent cette phrase, c'est un élève qui est manuel. Or, vous savez comme moi que la formation, et de plus en plus, est une formation scolaire. Donc, le manuel, c'est du manuel avec de l'intellectuel. Donc, ces images, si vous voulez, de la société autour de l'enseignement professionnel, peuvent concourir aussi à brouiller un peu le rapport que les élèves ont avec les savoirs, comme je l'ai dit un peu ce matin, parce qu'ils réalisent finalement que le lycée professionnel, ça reste encore en partie l'école. Alors, là encore, toujours par rapport à l'entrée élève, c'est la question de l'accrochage, comment on accroche les élèves. Une des dimensions, c'est de dire on accroche les élèves par un travail sur le projet. Et ce terme de projet amène une question. Quel lien on peut faire entre le projet de l'élève et le projet des équipes éducatives? Est-ce qu'ils correspondent à la même chose? Est-ce qu'il y a effectivement dialogue entre les deux dimensions? Le projet de l'élève n'est-il pas aussi inscrit dans la relation à l'institution scolaire? Et si, quand on prend l'exemple, notamment ce que disent les élèves enquêtés, quand ils disent finalement « apprendre, c'est aussi devenir quelqu'un ». Et donc le projet d'apprendre, c'est aussi le projet de se construire. Donc projet de l'équipe, comment le projet de l'élève peut-il être pris en compte? Et à condition qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on entend par projet de l'élève. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement le projet professionnel. Alors, à ce propos, une autre question émerge. Dès lors que l'on définit une partie des élèves du lycée professionnel comme étant des élèves pas forcément fâchés avec l'école, mais pas forcément spontanément, finalement, ouverts ou engagés dans les apprentissages, se pose la question suivante, qu'est-ce qu'on appelle la difficulté scolaire? Qu'est-ce que c'est que la difficulté scolaire des élèves? Des élèves en difficulté, est-ce que c'est la même chose que de dire des élèves difficiles? Dès qu'on entend ces deux termes, on voit très vite que la difficulté scolaire réfère plus à quelque chose de l'ordre du cognitif, tandis que l'élève difficile, c'est l'élève en termes de comportement, en termes plus ou moins de violence. Donc on aura toujours cette tension, la difficulté scolaire. Qu'est-ce qu'on entend par difficulté? Et je dirais ici, on a à distinguer les difficultés d'ordre cognitif, hein, parce qu'il y a des élèves qui, en termes de niveau, en termes de capacité, effectivement, ont des difficultés à rentrer dans des activités et dans des apprentissages. La difficulté aussi de type relationnel, hein, c'est-à-dire comment s'engager dans des apprentissages quand on est dans un univers scolaire qui n'est pas toujours rassurant. Et je dois dire, de ce point de vue, je ne l'ai pas dit ce matin, qu'il ne faut pas oublier que les élèves qui sont en difficulté scolaire, c'est-à-dire ceux qui ont des difficultés à entrer dans les apprentissages, sont souvent des élèves qui se définissent scolairement. Ce qui veut dire que l'école marque les élèves, et donc l'élève en réussite se définit rarement en termes scolaires. Donc ça veut dire que ça a des effets durables, hein. Et c'est très intéressant de voir les témoignages d'élèves qui sont sortis de l'école, parfois par exemple sans qualification, leur discours sur l'école, il est souvent un peu étrange, c'est-à-dire un peu ambivalent. On aurait bien voulu réussir, mais en même temps, je regrette ne pas avoir réussi, je regrette aussi des choses un peu qui m'ont marqué, donc c'est quelque chose d'assez frappant. Et je ferai une parenthèse à ce propos, dans une rencontre avec des PLP il n'y a pas longtemps, hein, qui me dit, je me souviens moi-même, il racontait un peu son parcours, il était passé par lycée professionnel, et c'est là où j'ai remarqué un peu le poids de l'école, pour pouvoir ne pas la subir et transformer quelque chose de négatif en positif. Donc j'ai trouvé ça un témoignage intéressant sur les enseignants qui étaient aussi élèves, et donc comment ça fait un peu écho par rapport à cette question de la difficulté scolaire et de la perception de soi. Alors, toujours par rapport aux élèves, j'ai retenu cette question. Comment les difficultés des élèves peuvent donner lieu à la construction de nouvelles professionnalités chez les enseignants, chez les CPE, chez les autres acteurs qui interviennent dans l'établissement scolaire? Et donc, d'une certaine manière, ces difficultés amènent les acteurs à s'interroger sur leurs propres pratiques. C'est-à-dire comment on passe de la difficulté des élèves aux pratiques des enseignants. Je vais y revenir tout à l'heure puisque c'est l'axe, troisième axe. Est-ce que l'élève est acteur de sa scolarité? Nous avons eu beaucoup de débats, sans doute aussi très idéologiques, hein, je dois le dire, autour de cette question de mettre l'élève au centre du système scolaire. Vous savez, dans la fameuse loi de 89, l'élève au centre du système éducatif, nous avons eu la querelle des traditionnels, comme on dit, traditionnels et puis des pédagogues, qui est une querelle strictement idéologique. Jamais dans les textes inécrits, il faut partir des élèves seulement de leurs aspirations. Il faut partir des élèves au sens, il faut partir des élèves tels qu'ils sont. C'est une interprétation qu'il faut proposer. C'est pas de dire, on va partir simplement des besoins ou des aspirations. Ben, s'il veut travailler, il va travailler. S'il veut pas travailler, il travaillera pas. C'est pas ce sens-là. Or, ça a été dévoyé dans le discours dominant, en disant, regardez, l'école, elle est dévoyée, c'est plus le savoir, c'est la garderie, c'est bon. Et donc, la question qui se pose, c'est comment cette idée de l'élève est acteur, à partir de quand les élèves sont-ils acteurs? Et quelque chose d'assez frappant quand on les interroge, c'est que autant ils peuvent vous dire on a été orienté dans quelque chose qu'on n'a pas voulu, autant on voit très vite une métamorphose qui s'opère progressivement quand ils commencent à dire ils se posent comme sujet, c'est plus le on, c'est pas la forme impersonnelle, c'est je deviens sujet. Et comment est-ce que je deviens sujet? Quand je maîtrise les différentes exigences scolaires, cognitives, professionnelles. Donc ce passage-là permet aux élèves de se positionner plus comme sujet. Et donc, c'est une question qu'on peut se poser. À partir de quand les élèves entrent en lycée professionnel, scolarisés, construisent-ils justement une posture d'acteur, acteur au sens où l'individu s'engage et en même temps, il vit cette expérience comme quelque chose qu'il ne subit pas. Je pense par exemple à témoignage de certains élèves. Autre dimension aussi, c'est un peu, c'était ma thématique d'intervention de ce matin, c'est la question du rapport au savoir. Donc je disais, voilà, si on veut comprendre le rapport les élèves, le rapport au lycée professionnel, c'est comment on appréhende le rapport au savoir. Alors je redis un peu ce qui a été avancé et sur lequel on peut être se mettre d'accord, c'est que les enseignants disent nous avons de plus en plus affaire à des individualités dans les classes et dans la pratique, dans l'enseignement. Ces individualités, du point de vue des théories du rapport au savoir, elles ont une pertinence parce que tous les élèves, quels qu'ils soient, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale, familiale, etc., ils se sentent des élèves qui restent toujours singuliers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, il y a toujours de l'histoire personnelle qui se joue dans le rapport à l'école. Et donc cette histoire personnelle, c'est un peu ce qu'on appelle en sociologie les approches un peu de type biographique, ce sont des histoires qui continuent aussi à interpeller le rapport même à l'école et à la formation. Quand je parlais ce matin des familles, les parents qui s'attendent à ce que leurs enfants réussissent, les enfants se sentent effectivement plus ou moins missionnés par cette expérience familiale. Est-ce que je réussis ou je ne réussis pas? Ne pas oublier aussi que l'échec de l'élève à l'école se traduit souvent par des tensions au sein du milieu familial, ce qui montre bien qu'il y a des attentes, qu'il peut y avoir des tensions. Et ne pas oublier aussi une autre dimension, c'est que la réussite à l'école transforme aussi le rapport des élèves à leurs parents, puisqu'ils interrogent, ils voient un peu leur milieu familial de façon un peu différente. Si tant il est vrai que éduquer, c'est aussi amener les élèves à changer. Et donc, de ce point de vue, on est dans cette dynamique qui est importante à relever. Alors, j'aurais pu prendre des exemples concrets. Je pense par exemple à une élève qui, une des rares élèves que j'avais rencontrée, qui me dit spontanément qu'une des matières qui la passionne, c'était l'histoire, au départ. Et elle me dit, voilà, l'histoire me passionne et c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup d'heures par semaine. Donc, c'était une élève en comptabilité. Et en fait, l'entretien montre que l'intérêt pour l'histoire n'est pas indépendant de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait écho et donc qui amène l'individu à se réinterroger sur sa propre trajectoire. De la même manière, quand les élèves disent « Ah, c'est un télo », vous savez, cette forme de qu'on peut considérer comme une sorte de mépris vis-à-vis de la théorie, c'est un télo, c'est bouffon, etc. En fait, ils sont en train de dire que ce qui représente l'intello, c'est la forme de domination dans laquelle ils ne se reconnaissent pas et qui peut se traduire paradoxalement par une certaine résistance vis-à-vis des savoirs parce que on a peur de rentrer dans un univers qui déstabilise l'individu, qui l'interpelle. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi du temps pour que les élèves changent et se transforment. C'est d'ailleurs, je pense, qu'une des réticences des enseignants de lycée professionnel que nous ont dit, finalement, ce qu'on faisait en 4 ans, est-ce qu'on peut le faire en 3 ans? Je crois que cette question de temps, faut pas la prendre à la légère. C'est effectivement ce qui a contribué pendant un certain temps à structurer aussi le travail des enseignants. Et donc, dernier point sur les élèves, je crois que c'est l'intérêt aussi de faire des observations, d'apprendre à connaître le public, c'est de proposer un peu ce que Charlot appelle une lecture en positif. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture en positif ? C'est on part des élèves tels qu'ils sont et non pas des élèves tels qu'on voudrait qu'ils soient. Alors, ça peut paraître banal de le dire, mais c'est aussi ce qui permet de comprendre, d'éviter un certain nombre de malentendus. Par exemple, quand on dit « les élèves n'ont pas le langage qu'il faut, ils n'ont pas les codes ». Évidemment, il y a des élèves qui n'ont pas les codes, qui sont demandés par l'institution scolaire. Pourquoi ? Parce que l'institution scolaire demande des compétences qu'elle n'enseigne pas toujours. C'était ce que disait Bourdieu il y a longtemps. Or, des élèves qui n'ont pas le langage, c'est pas qu'ils n'ont pas le langage, c'est qu'ils n'ont pas le langage que l'école leur demande, ce qui n'est pas la même chose. Quand des gens comme David Lepoutre étudient le langage des adolescents à la cité de la Courneuve, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que ces adolescents, ils ont un vocabulaire qui est extrêmement complexe, qu'on appelle le vocabulaire des rues, mais qui est un vocabulaire qui n'a aucune chance d'être validé par l'école. Et ça me fait penser un peu à un des ateliers qui a eu lieu hier sur l'écriture, sur qu'est-ce que l'école valide ou ne valide pas. Qu'est-ce qu'elle légitime ou elle ne légitime pas ? Effectivement, l'élève sait très bien que quand on entre à l'école, c'est la culture légitime, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être interprété comme une manière de disqualifier la culture sociale, la culture populaire. Et donc, de ce point de vue, je pense à un étudiant. Alors, vous voyez, il faut faire un parallèle, pour ne pas rentrer, finalement, stigmatiser les élèves lycéens professionnels. Quand j'ai demandé une fois, parce que j'ai des étudiants qui travaillent sur, qui font des enquêtes de terrain, sur notamment la culture, quelles sont les pratiques culturelles des habitants d'un quartier, il y a un étudiant qui me dit... Vous savez, si vous me posiez la question, je vais vous dire la chose suivante. Je vous dirais que je regarde une question sur quel type de lecture. Je vais vous dire, je lis les livres d'auteurs, les essais, etc. Je dirais pas que je lis. Alors il me dit dans son expression que je lis des navets finalement. Il me dit de la même manière, quand je regarde la télévision, je regarde aussi des émissions, même des émissions qui sont, me dit-il, des émissions people. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des niveaux de légitimité culturelle qui se jouent, et donc la disqualification des pratiques culturelles des élèves peut devenir une disqualification des élèves. Vous voyez, c'est un peu cette tension entre jugement sur l'élève à travers le travail, on va juger le travail, qui peut devenir aussi un jugement sur la personne. Et je dirais, c'est à peu près la même chose quand on dit, par exemple, que lorsqu'on évalue les enseignants, on évalue le travail, mais on n'évalue pas la personne. Ils ne sont pas dupes. Ils font très vite le lien que l'évaluation du travail, c'est aussi une forme d'évaluation de la personne. La deuxième entrée que je propose, c'est l'entrée établissement. Alors, c'est vrai que c'est revenu à plusieurs reprises. Et donc, l'entrée établissement a montré qu'il y a des dynamiques, il y a des expériences. Nous avons eu des témoignages de plusieurs personnes, chefs d'établissement, équipes éducatives. D'autres acteurs, établissements publics, établissements privés, donc différentes histoires finalement, qui apparaissent comme la mise en œuvre de ce que j'appellerais des dynamiques locales. Donc ces dynamiques locales renvoient aussi à une certaine disposition, c'est-à-dire que ce sont plutôt des acteurs qui s'emparent d'un objet, qui se disent par exemple, nous avons un certain nombre de problématiques, il faut qu'on les problématise professionnellement, qu'on les construise ou qu'on essaie d'y apporter des réponses. Et il apparaît clairement que ces dynamiques d'établissement, c'est un peu a priori ce qui détermine aujourd'hui le fonctionnement de l'institution scolaire. Ça n'est plus seulement le fonctionnement centralisé d'un État régalien ou État classique. C'est aussi le fait que les établissements doivent se saisir justement de problématiques en essayant d'y apporter des réponses le plus, on va dire, le plus positif, le plus efficace possible, avec des mécanismes de régulation. On l'a vu avec notamment les débats sur l'accompagnement personnalisé. On le voit aussi à travers des enquêtes, je n'en ai pas parlé ce matin, sur l'abandon en cours de formation, où la visibilité du problème, le fait même de l'anticiper, permet aussi d'y apporter des réponses. Par exemple, on a rencontré des chefs d'établissement et des équipes éducatives, des enseignants qui disent, finalement, on sait que les élèves qui vont quitter le lycée professionnel, en général, ça commence par l'absentéisme, qui lui-même, en général, commence par des arrivées en retard. Donc on anticipe, ce qui permet aussi de faire face à des difficultés. Mais ça se joue plus facilement dans des établissements à taille humaine, j'ai envie de dire. Et là, on voit aussi des mécanismes de régulation qui peuvent être variables et qui ont aussi des effets. Donc, de ce point de vue... Un des éléments qui apparaissait, c'est le travail en matière d'accompagnement des élèves, en matière d'accompagnement des équipes. qui permet aussi de ne pas personnaliser trop les épreuves ou les contraintes, hein, le fait de socialiser la contrainte, socialiser la difficulté, à une époque où actuellement on a tendance à culpabiliser les acteurs. Et je crois que de ce point de vue, il y aura des choses à gagner, hein, de façon à ce que les établissements puissent développer et encourager à une professionnalité collective pour sortir finalement de cette individualisation qui, paradoxalement, trouve dans les nouveaux modes d'évaluation une sorte de ce que j'appellerais moi une alliance objective, puisque on ne peut pas, par exemple, objectivement, évaluer le travail des enseignants sans l'intégrer aussi à l'évaluation du collectif de travail. Alors comment on gère cette tension entre l'individuel et le collectif quand il s'agit d'accompagner les équipes éducatives? C'est une question effectivement qui reste en suspens. Autre élément aussi, dans ces innovations dans les établissements, je crois, c'est aussi le fait d'encourager à la parole, ce que j'appellerais la parole libre. Parole libre, par exemple, j'ai trouvé dans un atelier l'entretien d'explicitation, le fait que l'on puisse s'exprimer, c'est-à-dire instaurer une confiance au sein de l'établissement, instaurer aussi des capacités de dialogue, d'écoute, assurer aussi une double médiation, ce que j'ai appelé une double médiation entre lycée professionnel, les familles, lycée professionnel et les entreprises, et assurer aussi une forme de tutorat pédagogique entre enseignants et élèves, enseignants personnels d'éducation élèves, et puis entre élèves. Je prends un exemple qui a été dit dans un des ateliers, c'est effectivement le rôle que peuvent avoir les anciens élèves pour mobiliser les élèves arrivants. Ça veut dire qu'on crée aussi une certaine régulation, et ça m'a fait penser d'ailleurs à ce que disent les élèves, il est beaucoup plus parlant d'amener d'anciens élèves finalement à faire rencontrer des élèves actuels. Quand ils s'adressent aux élèves, ils sont plus à l'écoute parce qu'on n'est plus dans le rapport de domination. Même si les enseignants ou les autres personnels, évidemment, ils disent des choses sensées, mais simplement, on n'adhère pas parce que on est déjà un peu dans, si vous voulez, dans la crainte d'être un peu dominé dans la relation. Et donc, de ce point de vue, c'était intéressant de voir un peu ces genres d'expériences. Alors, toujours dans l'établissement, la question entre éducation, instruction et formation, je trouvais ça intéressant parce que le lycée professionnel, c'est pas seulement un lieu d'instruction, c'est pas seulement un lieu d'éducation. C'est aussi un lieu de formation. Et donc, ne pas oublier un élément important, c'est que toute la pédagogie inductive, pédagogie par projet, la pédagogie par objectif, nous vient de la formation continue, de la formation des adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains établissements, quand les enseignants enseignent à des adultes, PLP, et puis à des élèves, il y a des échanges, c'est-à-dire il y a la capacité aussi à transférer ce qui marche avec les adultes à des élèves, et donc on est aussi dans ce dialogue, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple ce matin de ces PLP qui avaient suivi une formation, par exemple en sciences d'éducation au QEP de Lille, qui mobilise effectivement des ressources issues de la formation d'adultes. Et enfin, toujours pour l'établissement, c'est la question de l'innovation, et je dirais que l'innovation se construit dans l'établissement, mais aussi elle bouscule les normes. Quelque chose d'assez intéressant à remarquer en France, et pas seulement au lycée professionnel, c'est que l'innovation se fait souvent à la marge, et après, elle est plus ou moins intériorisée, plus ou moins récupérée par l'institution. Alors le problème, c'est que parfois, quand elle est récupérée par l'institution, elle n'a plus le même sens. C'est-à-dire qu'elle se transforme en injonction, et ça crée des réticences, alors même que ça a marché. Par exemple, les PPCP, on n'a pas attendu les PPCP pour expérimenter notamment un certain nombre de dispositifs pour mettre en lien les différents savoirs articulés, finalement, les différents contenus. Et donc, quand ça a été mis en place, je me souviens, maintenant, on regrette un peu cette époque de 2000, je me souviens, à l'époque, ça a suscité des réticences. Oui, PPCP, on voit pas très bien, etc. Bon, donc, la norme aussi est bousculée par l'innovation. Et je prends l'exemple qui a été aussi, mine de rien, dans un témoignage avant-hier. C'est quand des professionnels disaient, ben nous on est dans le centre qui était un centre social, enfin un établissement médico-social qui est devenu un établissement qui accueille des élèves de CAP. L'éducateur est aussi enseignant. D'ailleurs, ça, quelqu'un qui a posé la question, mais l'éducateur il n'est pas enseignant, comment se fait-il? Et là, ça donne une idée sur le fait que quand on travaille en termes de partage des savoirs et de compétences, ça veut dire aussi que ça oblige les uns et les autres à se renseigner et s'informer sur ce que font les autres, hein, les collègues. Et moi, j'ai découvert des choses. Quand j'étais au lycée professionnel, je voyais un petit peu, je me disais, voilà, j'avais eu l'occasion d'assister à des cours. Mais en faisant cette recherche, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire le lycée professionnel, dans ce qu'il a de complexe, de varié, en allant voir un peu ce que font les collègues, en regardant un petit peu les référentiels, en échangeant, en allant des réunions, voir un peu l'enseignement concrètement. Et ça donnait effectivement une autre représentation que d'être toujours, si vous voulez, dans cette division un peu scindée des rôles des uns et des autres, et où on échange sans véritablement communiquer. Et enfin, le troisième entrée que je propose, c'est la question de la professionnalité enseignante, qui est effectivement le thème de ce stage. Mais vous comprenez que cette professionnalité n'est pas indépendante des deux entrées précédentes. Hein. On peut rentrer par élève, établissement... et par enseignant. Alors, la professionnalité enseignante est interpellée par les injonctions institutionnelles, je dirais. Hein, elle est plutôt interpellée ici par les injonctions institutionnelles, notamment la création, la généralisation du bac, la réforme du bac pro 3 ans. Alors, cette question, je vais la formuler comme ça sur la professionnalité enseignante. Est-ce qu'on enseigne en lycée professionnel comme on enseigne ailleurs ? Voilà, on peut se poser cette question. Existe-t-il un type d'enseignant en lycée professionnel, qui soit spécifique, parce que on enseigne dans des établissements, dans des contextes qui sont des contextes où il y a un certain nombre de problématiques professionnelles. Alors, cette question, je la pose d'autant plus que nous avons eu l'occasion de faire une enquête il y a quelques années, il y a 3 ans, avec des collègues, sur une autre problématique qui était « qu'est-ce que c'est qu'enseigner en secteur difficile ?» On avait repris, si vous voulez, on avait fait des entretiens, des observations, et ça portait sur des enseignants du primaire, du secondaire et du lycée, et lycée professionnel. Et donc, voilà. Et on avait une difficulté importante qui était que, finalement, c'est pas tant le secteur qui fait la difficulté, hein, parce qu'on tombait sur des établissements apparemment qui n'étaient pas catégorisés ou considérés comme étant des établissements REP, par exemple. Mais plutôt la concentration des difficultés au sein d'un contexte. Hein. En particulier, on rencontrait des enseignants qui étaient dans des établissements où l'organisation des classes était telle qu'ils avaient des classes en grande difficulté, alors que l'établissement était plutôt centre-ville, par exemple. Et donc, ça nous a amené à poser la question suivante. Peut-être que la professionnalité enseignante, c'est aussi ce qui vient bousculer un peu les routines, c'est-à-dire... La professionnalité enseignante est d'autant plus mise à l'épreuve qu'il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent relever, par exemple, des injonctions institutionnelles, qui peuvent relever l'hétérogénéité des publics. Alors, ça a été dit ici, hétérogénéité des élèves, donc. Et donc, on peut se poser la question ici, qu'est-ce que c'est qu'un bon professionnel ? Alors, je ne vais pas faire de théorie, mais simplement faire une sorte de parallèle, si vous voulez, avec des travaux qui portent sur le métier d'enseignant. En général, en France, il y a globalement deux types d'approches. Soit les approches qui disent la professionnalité d'enseignant, c'est le métier est devenu presque impossible, donc on va parler plutôt des difficultés professionnelles, donc on va mettre en avant les épreuves. Et puis il y a une deuxième approche qui est un peu plus normative, qui dit grosso modo ce qu'il faut faire. Donc la professionnalisation comme injonction. Un enseignant professionnel, c'est quelqu'un qui doit effectivement maîtriser son savoir, ses savoirs disciplinaires, qui doit aussi maîtriser ce que Pernoud appelle les savoirs pour enseigner. C'est pas seulement les savoirs à enseigner, mais les savoirs pour enseigner, donc la pédagogie. Et d'autres chercheurs disent finalement, il y a 3 typologies. Je prends une typologie qui a été faite par des sociologues, notamment Martine Kerubi et puis Agnès Van Zanten, dans leur livre « Quand l'école se mobilise », elle distingue 3 types de professionnalité. Disent finalement, il y a la première professionnalité, c'est ce qu'elles appellent la fuite. Alors la fuite, c'est-à-dire les enseignants qui n'attendent qu'une chose, c'est de quitter l'établissement. Donc ça renvoie effectivement à ces phénomènes de rotation que nous connaissons. Hein, j'arrive et donc vous savez qu'il y a des établissements scolaires où parfois le taux de rotation est pratiquement de 50% d'une année sur l'autre. Alors c'est quand même des cas qui peuvent être extrêmes, mais qui existent. Donc du coup, ça interroge sur la stabilité des équipes. La deuxième professionnalité, c'est celle de l'adaptation, disent-elles. Voilà, adaptation, ça veut dire... Je fais avec mes élèves. Je fais en sorte de m'adapter aux élèves. Ça peut être teinté de misérabilisme. Le misérabilisme, c'est finalement nos élèves ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ont le niveau tel qu'on ne peut pas exiger d'eux beaucoup de choses. Du coup, on peut tomber sur une des remarques qui a été dite ce matin. Est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège de faire de la socialisation au détriment des apprentissages ? Ça, c'est une démarche dite de l'adaptation. Et puis la troisième typologie qu'elle dégage, c'est de dire... La professionnalisation. Et qu'est-ce que c'est que la professionnalisation ? C'est le fait d'être constamment en train de réinterroger sa pratique.
Et je dois dire, par rapport aux différentes interventions, qu'on était plutôt dans cette logique-là. Réinterroger sa pratique, ça veut dire ne plus être dans les évidences, ça veut dire aussi être dans l'invention, être dans l'innovation. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, parce que une question qu'on peut se poser, est-ce que tous les enseignants ont-ils la capacité, en termes de ressources, en termes aussi d'appui, à faire face à la difficulté, difficulté des élèves, difficulté notamment de présence, et du coup, c'est là où le collectif professionnel est important. Hein. Le collectif professionnel comme manière de construire une professionnalité avec toujours cette tension. Tous les enseignants, quel que soit le niveau qu'ils enseignent, sont très attachés à la liberté pédagogique. Donc cette liberté pédagogique est importante, c'est traditionnellement dans la mission même de l'enseignant, mais en même temps, elle peut se payer par le risque justement d'être isolé, d'être face à la difficulté et ne pas socialiser la difficulté. Donc comment on fait pour passer du niveau individuel face à ses élèves vers le niveau collectif? Le rôle de l'établissement et le rôle du collectif professionnel est évidemment très important. Alors, cette question de la socialisation professionnelle des enseignants se pose actuellement, on l'a dit ce matin, avec les nouveaux enseignants. Quel modèle de formation? Donc la formation notamment dans les universités, la formation en termes d'accompagnement sur le terrain. Quelle articulation entre les écoles internes que sont devenues les IUFM et les terrains de formation ou les terrains d'exercice sur stage de responsabilité, de pratique accompagnée par exemple. Alors du coup ça renvoie aussi à une autre question, celle de la tension entre le modèle de recrutement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien un peu la tension encore qui est quand même importante. Comment se fait-il qu'on demande à ce que les enseignants évaluent les élèves en termes de compétences, alors même que le recrutement des enseignants continue à reposer essentiellement sur la qualification et les savoirs universitaires et les savoirs scolaires. Donc, cette tension aussi, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément une correspondance entre les modes de recrutement et les modes de formation. Et ça me rappelle d'ailleurs, quand j'étais à l'UFM, où les enseignants disaient, oh, finalement, l'UFM, on n'avait que 6 heures. Au début, ils étaient très réticents, c'est un peu théorique, c'est un peu éloigné du terrain. Puis au fur et à mesure, ils découvraient que, finalement, il y a des allers-retours en théorie et terrain. Alors, c'était pas l'Eldorado, puisque l'UFM était critiqué. Mais là, ils se disent, bon, est-ce qu'on a un temps de formation qui amène, effectivement, à construire des compétences au-delà de l'idée selon laquelle l'apprentissage du métier se fait sur le tas? Autre élément aussi, et ça rejoint d'autres terrains, pas seulement le lycée professionnel, c'est qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a un déclin, je reprends l'expression de François Dubé quand il dit « il y a un déclin de l'institution ». Et le déclin de l'institution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'institution, l'école, qui a fonctionné comme un programme institutionnel, c'était d'ailleurs la République des instituteurs, où l'instituteur avait une certaine identité reconnue comme telle, parce que d'ailleurs, il pouvait dire à ses élèves, si vous ne me respectez pas personnellement, respectez ce que je représente. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'enseignant représente? Donc la question n'est pas simple. Pourquoi? Parce que une des difficultés que rencontrent les enseignants, c'est de dire, nous affrontons à des problèmes sociaux qui rentrent à l'école. Comment faire face à ces problèmes sociaux? Comment y faire face dès lors que l'école n'est plus le seul lieu de transmission de la culture? Puisque le lycée professionnel est aussi concurrencé par d'autres éléments, la télévision, les médias. Vous savez que les élèves opposent beaucoup l'école et la vie, hein, la vraie vie qui se passe dehors. L'école, c'est pas vraiment un lieu de vie. Ou alors, si c'est un lieu de vie, c'est pas forcément un lieu de savoir. Donc, ce déclin, qu'est-ce qu'il amène? Eh bien, il amène les enseignants à devoir eux-mêmes construire leur propre rôle. Hein, construire son propre rôle dès lors que l'institution ne peut pas assurer ce rôle. Et la parenthèse qu'on a eue tout à l'heure, d'ailleurs, et ce matin, sur notamment le rôle que peuvent jouer l'encadrement dans l'accompagnement des enseignants, elle s'inscrit aussi dans cette dimension. C'est-à-dire que le rôle évolue, et dans la mesure où l'institution ne peut plus dire aux individus comment il faut faire, c'est aussi des arrangements et des constructions qu'il faut inventer. C'est d'ailleurs le sens que j'avais donné notamment à ce fameux BO de 97 qui dit finalement il faut donner du sens au savoir. Et on commençait d'ailleurs avec mes stagiaires, les stagiaires PLP et PLC. Mais c'est de travailler notamment à partir, la première chose qu'on faisait c'était de prendre le BO 97. On disait voilà, bienvenue dans l'éducation nationale. Donc travaillons sur ce petit texte. Et ça permettait dès le départ de pointer un peu les orientations. Ils voyaient bien quelles sont les orientations. Mais ça donnait très vite lieu à des interrogations. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donc là, on est dans l'invention. Oui, mais c'est justement, heureusement, c'est très bien qu'on invente. Est-ce qu'on a toujours tous les moyens pour pouvoir inventer? Est-ce qu'on a toutes les, je dirais, les ressources nécessaires? Pas sûr. Donc du coup, effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Et enfin, je terminerai ici par quelques observations, simplement. Je dirais, le bac professionnel 3 ans a bousculé, sans doute, hein, le lycée professionnel. Ça a au moins le mérite de faire parler du lycée professionnel. Au moins le mérite aussi de dire, il se passe des choses dans les lycées professionnels. Mais qui interroge aussi de la manière suivante. En 2003, par exemple, il y a eu un colloque, enfin une journée d'études, c'était dans l'Académie de Versailles, sur l'accrochage en lycée professionnel, raccrocher des élèves. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu ce document. Ils ont produit un document par le CRDP de l'Académie Versailles qui met en avant toutes les innovations qui avaient été expérimentées. Alors vous aviez des lycées professionnels qui avaient mis en place beaucoup de choses. Et on se dit, quand même, comment se fait-il qu'il y ait des choses qui existent et que on ne sache pas qu'elles existent finalement, ou alors comment se fait-il qu'on ne puisse pas les généraliser? Donc ça pose aussi une question. Comment on s'approprie des expériences qui ont déjà eu lieu dans d'autres établissements? Et ça, c'est une question de fond. Si on veut s'approprier ces expériences, ça ne veut pas dire les reproduire, ça veut dire construire ensemble des réponses, tout en n'étant jamais sûr que ce sont des réponses qui vont fonctionner ou qui auront des résultats positifs, mais au moins on y croit. Et donc, c'est cette question de comment transférer des choses qui existent par ailleurs, comment faire en sorte aussi que la voie professionnelle, je reviens là-dessus, je terminerai sur ce point, soit donc d'une voie de réussite. Alors, je pense que cette voie de réussite doit conduire aussi à ce qu'on soit finalement assez lucide sur un certain nombre de choses. Par exemple, et ça a été dit tout à l'heure, sur la question notamment de l'alternance entre le lycée professionnel et son environnement, et notamment avec les entreprises. Quel type d'exploitation on peut faire justement des stages? Et c'est vrai que cette dynamique-là a été bien rappelée dans les nouveaux référentiels, plutôt quelque chose de positif. Et puis ne pas oublier une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le sort des élèves de CAP, puisque le lycée professionnel tend à être focalisé sur les bacs pro, alors qu'il y a aussi les CAP. Et les CAP sont-ils condamnés à n'accueillir que des élèves en grande difficulté? Ce qui d'ailleurs montre l'ambiguïté de l'institution quand elle dit c'est finalement les élèves qui ne réussiront pas à aller en bac pro, ils peuvent aller en CAP. Donc, vous voyez un peu le raisonnement. Ou alors, et dans ce cas, le CAP n'est-il pas aussi une voie de réussite pour des élèves qui étaient plus ou moins des élèves moyens? Alors, à ce propos, je me souviens, quand j'avais enquêté au début des années, à la fin des années 90, sur les élèves du lycée professionnel, ceux qui étaient les plus heureux d'entrer au lycée professionnel, c'était surtout les élèves de CAP, parce qu'ils venaient de l'enseignement spécialisé. Et pour eux, entrer en lycée professionnel, c'était une voie de réussite, ce qui n'était pas exactement le cas pour les élèves qui rentraient en BEP. Voilà un peu ce que je voulais dire. En allant un peu vite, mais j'essayais un petit peu de faire un résumé de ces 3 jours. Évidemment, je suis extrêmement schématique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas revenu. Alors, j'indiquais simplement ici, les choses, les enquêtes de terrain. Et j'avais relevé quelques thématiques, si vous voulez, en termes d'enjeux qui me semblent importants pour l'avenir. Alors, c'est pas 4 chantiers, c'est plusieurs chantiers. Ça, c'est les 4 au départ. Et en fait, plusieurs chantiers qui sont à relever parce qu'il y a des choses qui se recoupent. Alors, par rapport à ce stage, il me semble que c'est revenu souvent cette question de l'accompagnement personnalisé et le contrôle, finalement, en cours de formation. Cette question du CCF, d'ailleurs, elle présente l'intérêt d'être en phase avec le rapport au savoir chez les élèves, en tout cas chez certains élèves. Vous savez, quand les élèves disent je suis en réussite quand je vois ce que je fais, et c'est aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que on est dans c'est peut-être positiviste, c'est peut-être rationaliste, ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'on met les élèves devant ce sentiment de réussite parce que on fait quelque chose. Et donc, je pense que là, ça peut être intéressant. C'est pour dire que dans certaines réformes, il peut y avoir des choses positives. Et puis, la lutte contre l'absentéisme et rupture scolaire, qui est aussi un enjeu. Sans doute, on a vu l'expérience, notamment dans le lycée que vous avez présenté avant-hier, où effectivement, il y a une baisse du taux d'absentéisme parce que les actions ne sont menées et puis on anticipe. Le risque aussi de l'essor de l'apprentissage, j'y tiens beaucoup parce que je sais que y a des enjeux, notamment sur la qualification et la reconnaissance, le problème de l'alternance lycée professionnel et entreprise, le travail en équipe, l'accompagnement des nouveaux enseignants, penser la poursuite des études à l'issue du baccalauréat. Et je redis encore, c'est une question de volonté, puisqu'on essaie quand même de faire en sorte que nos élèves, alors c'est les collègues qui posaient la question tout à l'heure, quand vous accueillez des bacs pro à l'IUT, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, non seulement, bien sûr, ils sont sélectionnés, parce qu'il y a une sélection sur dossier, mais il y a aussi des heures d'accompagnement, c'est-à-dire on dégage des heures pour faire du soutien dans certaines matières, sociologie, économie, histoire, droit. Bon, c'est des étudiants qui se destinent à devenir des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, par exemple, ou animateurs ou gestionnaires urbains. Voilà, j'espère que vous n'avez pas décroché, et je vous remercie pour votre attention.